Comme nous l'avons déjà annoncé, nous allons entrer directement dans la parole de Dieu et lire les passages de l'Écriture qui concernent la partie dont il est question ici cet après-midi. Je voudrais lire à ce sujet le chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11, mais c'est le passage que tout le monde connaît. Et c'est pourquoi je voudrais d'abord lire le chapitre 10. Ce passage n'est pas très familier à la plupart des gens. 1 Corinthiens chapitre 10 du verset 14. Le sujet, fuyez l'idolâtrie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Après tout, 1 Corinthiens 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Après tout, je vous parle comme à des gens intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Parce qu'il n'y a qu'un seul pain, malgré notre multiplicité, nous ne formons qu'un seul corps, car nous partageons tous un seul pain. Jusqu'ici, jusqu'au verset 17, ce passage biblique, si possible, un peu moins fort là-haut. Merci de tout cœur. Il faut lire cette parole dans son contexte, comme cela devrait être le cas pour tous les autres passages bibliques. Il faut savoir ce qui a précédé celle-ci et savoir pourquoi un tel avertissement a été donné précisément en rapport avec le souper du Seigneur. Vous connaissez certainement très bien donc le repas du Seigneur. Vous connaissez certainement très bien 1 Corinthiens 10. Du moins, les quatre premiers versets, il est dit ici dans 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, ayant tous reçu le baptême sur Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous aussi ont mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont en effet bu à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. Je l'ai lu dans la Bible, donc ce qui vient d'être lu est vrai. Un rocher spirituel accompagnait Israël. Et ce rocher était Christ. Et ils ont tous bu de ce rocher spirituel. Ils ont tous mangé la manne. Ils ont tous été baptisés dans la nuée, dans la mer, sur Moïse, et ainsi de suite. Et voilà la contestation. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, car ils ont été abattus dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'avertissement. Afin que nous ne dirigions pas nos désirs vers le mal comme ils l'ont fait. Ne devenez pas non plus idolâtres comme certains d'entre eux, car il est écrit, le peuple s'est assis pour manger et pour boire, et il s'est relevé pour se divertir. ne nous livrons pas non plus à la fornication, comme l'ont fait certains d'entre eux, puisqu'il en est tombé 23 000 en un seul jour. Jusqu'ici, cette parole tirée des Saintes Écritures. Ensuite, le verset 11 mérite peut-être aussi d'être lu. Or, toutes ces choses leur est arrivée pour servir d'exemple et ont été mises par écrit pour nous avertir, nous qui sommes proches de la fin des temps. Nous remarquons qu'il s'agit ici des derniers temps, de la fin, de la préparation, d'où ces avertissements très sérieux. Si nous participons aujourd'hui, si nous prenons part aujourd'hui au souper du Seigneur, au repas du Seigneur, c'est en pleine conscience de ce que Dieu a fait pour nous et en nous. Pourquoi ici le mot fornication est-il encore mentionné ici? Et je voudrais le souligner encore une fois ici pour une raison très précise. S'il y a parmi nous un homme qui a des tendances homosexuelles, il ne doit pas participer, prendre part au souper. Il n'a pas le droit de prendre le repas, le souper du Seigneur. Qui qu'il soit, la fornication est une chose contre nature, destinée à assouvir une pulsion naturelle, à satisfaire une pulsion naturelle. Et elle n'a pas sa place ni dans la maison de Dieu, ni parmi le peuple de Dieu. Que celui qui a une disposition aussi tordue se laisse délivrer, détacher au nom du Seigneur et affranchi. Mais vite, vite s'il vous plaît, vite, très vite, n'attendez pas. Nous l'avons lu ici, nous ne voulons pas forniquer, donc commettre de la fornication, on peut lire à ce sujet et c'est très simple. Si l'on veut ouvrir la lettre, l'épître de Jude, c'est le plus rapide. Avant de lire concernant donc sur ce sujet dans cet examen longuement, on peut ici déjà le verset 7 de la lettre de Jude lire. Le de verset 7, comme Sodome et Gomorre avec les villes environnantes qui, de la même manière qu'elles, ont vécu dans la fornication et se sont livrées à une chair différente. Elles sont là comme un exemple d'avertissement. Il y a certaines choses qui sont tout simplement démoniaques et qui doivent être dénoncées. Nous ne sommes pas ici une association pieuse. Nous revendiquons d'être l'Église du Dieu vivant. Et Paul écrit à Timothée, au chapitre 3, au verset 15, il donne des instructions, puis il dit ceci, je viens de le trouver devant moi, c'est en un seul coup, 1 Timothée 3, verset 14 à 15. 1 Timothée 3, verset 14 à 15. Je t'écris ceci dans l'espoir de pouvoir venir à toi assez tôt. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Qu'est-ce que la maison de Dieu, l'Église du Seigneur, la colonne et l'appui de la vérité? Ici, on ne fait pas que prêcher la vérité. Ici, la vérité est vécue, est pratiquée, est expérimentée. Ici, on vit la vérité divine, biblique. Tout le reste ne peut pas avoir sa place ici. Le peuple d'Israël a emporté tout ce qui était spirituel, mais dans le cœur, aucune transformation n'avait pu avoir lieu, aucun changement. c'était l'Ancien Testament, le sang des boucs et des taureaux n'a pas pu racheter l'homme et faire de lui une nouvelle créature. Il n'a fait que couvrir temporairement le péché. La rédemption et la transformation complète, le fait de se débarrasser, de se dépouiller du vieil homme et de pouvoir revêtir l'homme nouveau, créé selon la justice de Dieu, dans une justice et une sainteté juste que produit la vérité. Cela ne, ces choses ont été possibles que depuis Golgotha. Et il est dit ici que Dieu n'a pas pris plaisir à la plupart d'entre eux. Ils se sont levés après le culte et ont fait comme s'il n'y avait pas eu de culte du tout. Après le service divin, comme s'il n'y avait pas eu de service divin. Ils se passaient parmi eux comme à la foire et cela n'est pas possible. Dans toute cette maison, de la tête aux pieds et sur tout le terrain, l'ordre divin doit être à sa place. Chacun doit savoir que ce n'est pas ici une foire. Il doit y avoir du recueillement pour que Dieu puisse parler et agir en nous et par nous. Ici, nous devons tous nous soumettre du premier au dernier. En ce temps-là, le peuple se levait. Eux se divertissaient, s'amusaient et ainsi de suite. Et c'est allé si loin que Dieu a dû faire mourir 23 000 personnes en un seul jour pour donner un signal, pour donner le signal que cela ne pouvait plus continuer ainsi. Et tout cela, Paul l'écrit et nous le met sous les yeux avant que l'avertissement ne soit mis à jour et dans ce cas adressé à nous. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Vous savez ce qu'on pourrait y énumérer ici. Oh. Je n'y suis pas préparé, n'est-ce pas, à l'idolâtrie. Mais il y a un grand nombre de passages qui décrivent même la cupidité comme une idolâtrie. Donc aussi le gain et l'argent. Et il n'y a pas que l'idolâtrie où quelques idoles sont érigées, mais en fait, toute une série de choses. Frère Rouge, cherche-moi donc le passage où quelqu'un ici au premier rang. Si, si, il y a tout un tas de passages bibliques qui parlent de ce sujet. Mais comme je l'ai dit, je n'avais pas l'intention de le faire et je n'ai pas l'intention de le faire maintenant. Mais si on trouve les passages, je les lirai tout à l'heure. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Maintenant, il est dans 1 Corinthiens 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Après tout, je vous parle comme à des gens intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. Maintenant, 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons, Remarquez-vous, la coupe est déjà une coupe de bénédiction. Et nous bénissons la coupe de bénédiction. Parce que nous sommes les bénis du Seigneur. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Verset 17, parce qu'il n'y a qu'un seul pain, malgré notre multiplicité, nous ne formons qu'un seul corps. Car nous nous partageons tous un seul pain. Celui qui a le temps, qui peut et qui veut continuer à lire, n'a qu'à constater ce que l'apôtre écrit ensuite à nouveau à partir du verset 18, puis il arrive jusqu'au verset 21 et s'exclame. Vous ne pouvez pas boire à la fois la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas être invité à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous voyez de quoi il s'agit? Il s'agit de l'ensemble, il s'agit de tout. Il s'agit d'aller jusqu'au bout. Il faut respecter le corps du Seigneur et les règles qui s'appliquent à l'Église du Dieu vivant. Il faut que cela soit respecté. Ce ne sont pas des lois humaines, mais comme nous l'avons déjà mentionné, les choses d'origine démoniaque n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Des choses qui viennent de démons. Tout ce qui se passe sous influence démoniaque doit être banni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas possible que n'importe qui, dominé par des démons, fasse ce qu'il veut, entre dans les réunions et s'assoit ensuite comme un ange innocent, comme si rien ne s'était passé. Ce n'est tout simplement pas possible. Dans la maison de Dieu, c'est le droit divin qui prévaut. Et plus précisément, le droit divin selon lequel nous sommes devenus une nouvelle créature. En effet, lorsque nous participons au sang, à la bénédiction et au corps du Seigneur, en tant que mémorial, nous repensons à Golgotha. Et nous n'avons ici personne qui s'écrit trois fois, ici, Sanctus, 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 et que nous transformions alors le vin en sang ou l'hostie au corps du Seigneur. Non, mais nous avons le Dieu Saint au milieu de nous qui peut nous renouveler, nous faire naître de nouveau et nous transformer par la puissance du sang versé, la puissance de la parole et la puissance de l'esprit. Amen. Amen. Et c'est pour cela que le sang a coulé à Golgotha. Celui qui prend part au repas, au souper, doit avoir expérimenté personnellement ce qui s'est passé pour lui à Golgotha. C'est un rappel de l'œuvre de rédemption accomplie sur la croix à Golgotha. Je vais également vous lire cela dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, comme je l'ai déjà dit, il serait bon pour nous tous de lire lentement 1 Corinthiens, chapitre 10 et chapitre 11, en priant, vraiment dans la prière. De même au chapitre 11, avant que Paul ne dise du verset 23, comme je l'ai reçu du Seigneur, ainsi je vous l'ai transmis. Il fait descendre le marteau. Il fait apparaître clairement aux yeux des croyants l'ordre divin dans l'Église. Et là, je lis dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Or, je voudrais vous faire remarquer que la tête de tout homme, c'est Christ. Mais la tête de la femme, c'est l'homme. Et la tête de Christ, c'est Dieu. Ici, un ordre divin a été établi. Celui qui veut participer à la... qui veut prendre part au repas, au souper du Seigneur, doit distinguer le corps, doit discerner le corps du Seigneur. Il doit savoir qu'ici se trouve l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je le répète encore une fois, nous ne nous réunissons pas ici pour seulement célébrer le repas du Seigneur et encore moins pour la rémission des péchés. Cela n'est pas là pour ça. C'est un mémorial, un repas en mémoire de l'œuvre de rédemption accomplie à Golgotha, célébrée par tous et auquel peuvent participer tous ceux qui ont expérimenté personnellement Golgotha. Au verset 4, il est écrit dans 1 Corinthiens 11, « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore sa tête. » Donc, dans ce cas, Christ, n'est-ce pas? Christ, est-ce bien cela? Où est votre Amen? Où reste votre Amen? Amen. Bon, c'est bien. Ensuite, il est écrit au verset 5, « Toute femme, en revanche, qui prie ou prophétise avec la tête dévoilée, déshonore sa tête en agissant. Et qui, le, qui est sa tête? Qui est sa tête? C'est l'homme. Est-ce correct? L'avez-vous lu avec moi? C'est ainsi que c'est écrit ici. J'espère que personne ici ne lit à côté de la parole de Dieu, en passant à côté de la parole de Dieu, car ce ne serait pas bien. Il est également écrit ici, en agissant ainsi, car elle se trouve ainsi sur un pied d'égalité avec celle qui a été rasée. Donc en se rasant la tête, elle se tient sur le même pied qu'une prostituée. Car si une femme n'est pas voilée, et là je dois vraiment le dire, comme c'était le cas dans le christianisme primitif, il est dit de l'homme qui ne doit pas se couvrir la tête, mais de la femme il est dit qu'elle doit avoir la tête voilée. En Orient, dans l'assemblée de l'Église, les femmes laissaient tomber en avant leurs longs cheveux qu'elles portaient détachés et elles étaient enveloppées de recueillement et de soumission devant la face de Dieu dans l'Église des saints. C'est ce qui se passait alors, autrefois. Et vous verrez que c'est aussi écrit ici. Je lis le verset 7. Car, non pardon, l'homme, le verset 7, l'homme, au contraire, ne doit pas avoir la tête couverte, parce qu'il est l'image et le reflet de Dieu. Mais la femme est le reflet de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tiré de l'homme. Adam n'est pas sorti d'Ève. Ève a été tirée d'Adam. Voyons-nous là l'ordre divin. Il est tout simplement nécessaire, spécialement de nos jours, où les femmes n'ont pas seulement obtenu leur égalité, mais elles nous ont laissé un peu en arrière et regardent. Et en arrière, très loin en arrière, et regarde autour d'elle en demandant, mais où êtes-vous? Non, non. Dans l'Église du Seigneur, l'ordre divin est toujours en vigueur. Vous pouvez continuer à lire, peut-être que moi aussi. Verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Dieu n'a pas dit à Ève, « Ma fille, il n'est pas bon que tu restes seule, je vais te créer un compagnon. » Dieu a dit à Adam, « Il n'est pas bon que l'homme reste seul, je veux lui créer une aide. » J'ai récemment prêché à New York dans une église qui s'appelle l'Église apostolique, qui baptise au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, etc., et ainsi de suite. Mais à ce moment-là, la tradition avait déjà fait une telle percée que je me sentais effectivement un peu différent. Là, ils ont des sœurs qui avaient leur ministère dans l'Église. Alors, elles sont appelées même mère telle et telle, et elles ont cherché leur titre et tout droit, et l'ont trouvé, et c'était l'évêque telle et telle, etc. Vous pouvez vous imaginer cela? Que l'un était assis ici un peu à gauche, et l'autre un peu là à gauche et à droite. Et l'une était assise ici à droite, et l'autre était assise à gauche, un peu, etc. Et là, Dieu me fait simplement grâce. Et aucun homme ne peut m'en vouloir parce que je dis cela avec amour. Je ne m'agite pas, mais je prends la parole de Dieu telle qu'elle est réellement écrite. Et voici le secret. Tout homme, il soit qui il veut, qui se fait appeler par un titre, a déjà perdu son lien avec Dieu. Tout homme qui se fait appeler par un titre ou par une fonction a déjà perdu son lien avec Dieu. Je dois peut-être vous expliquer cela. En effet, dans Matthieu 23, il y a plusieurs choses, pas seulement une, mais plusieurs. La plupart des gens n'en lisent seulement que le verset 9, mais il y a plusieurs choses. Lisons verset 10. Matthieu 23, verset 10. En commençant avec le verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler enseignant, car un seul est votre enseignant, Christ, le Christ. Il n'y a absolument aucun fondement dans les Écritures qui permette d'utiliser des titres et de dire apôtre ou prophète, ou enseignant, ou évangéliste, ou pasteur. Cela n'existe tout simplement pas. Nous sommes des frères, serviteurs, et notre nom n'est pas non plus serviteur de Dieu. Nous ne sommes pas un titre. Nous ne sommes pas ce que le titre dit. Il s'agit d'un service. Dieu utilise. Et puis, on dit par exemple, monsieur l'évêque. Monsieur l'évêque, il se fait appeler évêque, il se fait appeler ancien. Mais qui devient ça? Qui l'est donc? Il ne lui manque probablement que cette... Ils ont qu'à mettre alors une robe, comme, n'est-ce pas, comme les religieux. Cela n'existe simplement pas. Mais maintenant, je vous ai placé ou assis entre deux chaises, n'est-ce pas? Selon que vous êtes encore debout ou assis. Or, la parole de Dieu dit que Dieu a établi dans l'Église les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, comme bergers et comme enseignants et évangélistes. Mais ça, c'est ce que Dieu a fait. Mais malheur aux prophètes, malheur aux évangélistes, malheur aux bergers, aux évangélistes, aux enseignants qui acceptent qu'on attribue à leur service un titre, alors que leur ministère est un appel divin, une vocation divine. Et là, j'aimerais ce chef indien qui est venu chez Frère Branham dans le nord du Canada et ceinturé avec vraiment des croix et des zigzags et des guillantes et toutes sortes de choses. Et il a demandé, mais comment dois-je t'appeler? Il a demandé ça à Frère Branham. Et puis il lui a simplement dit, si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, alors dis-moi frère. Appelle-moi frère. Et même quand tu parles de la personne, tu n'utilises pas de titre. Conclusion, ce ne sont pas les titres, mais nous restons ce que nous sommes. J'ai lu au sujet de Mahomet. On l'appelait, vous savez comment? Ô prophète de Dieu, ô messager du Seigneur. Toujours de tels titres que les autres se sont comportés de manière un peu délicate, n'est-ce pas? À genoux presque. Ils n'avaient plus de nom. Si vous allez aujourd'hui à la ville des sept collines, là, n'est-ce pas? Oh, sainte éminence, excellence. Ils n'ont plus de nom, mais pas ici, dans ce lieu saint. Non. Non, cela n'existe pas. Il n'y a qu'une seule personne qui est sainte, et c'est Dieu. Et puis, il y a une assemblée des premiers-nés, une église des premiers-nés, irréprochable, irrépréhensible, racheté, sanctifié et justifié. Il n'y a pas d'individu qui puisse être classé comme saint et être appelé comme ça. Vous voyez de quoi il s'agit? Supprimez tous les titres. Celui qui écoute la radio allemande peut parfois entendre les annonces maintenant. C'est mon Seigneur qui parle. Mais qui c'est ça? Qui c'est ça, mon Seigneur, qui va parler à la radio? On prend ces titres dans d'autres langues pour tromper le peuple d'une manière ou d'une autre. Heureusement que ce truc a un interrupteur. Parce que je sais alors ce que je dois faire. Ce n'est pas mon Seigneur. Ou bien alors, non. Mon maître est le Dieu qui a créé le ciel et la terre et personne d'autre. Mais aujourd'hui, tout se fait à haute voix, n'est-ce pas? Où en sommes-nous venus, en fait? Il faut se hâter de revenir à 1 Corinthiens 11. Où sommes-nous arrivés? Parfois, il se passe des choses que l'on ne soupçonne, qu'on ne soupçonne pas avant et qu'on ne sait pas pourquoi on doit en parler. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, je lis maintenant à partir du verset 11, afin que tous comprennent ici aussi de quoi il s'agit. Mais sinon dans le Seigneur, ni la femme n'est séparée de l'homme, ni l'homme séparé de la femme, ils ne sont pas l'un sans l'autre. Dans le Seigneur, nous sommes tous un. Juifs ou grecs, ça n'a pas d'importance qui nous sommes. Nous formons une union divine. Au verset 12, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naîtra de la femme. Mais tout vient de Dieu. Jugez par vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu à visage découvert? Et votre sentiment naturel ne vous apprend-il pas déjà que si un homme porte des cheveux longs, c'est une honte pour lui? Alors que si une femme porte des cheveux longs, c'est un honneur pour elle, car les cheveux longs lui sont donnés comme voile. Je ne peux lire que ce qui est écrit dans la Bible. Et cela devrait nous suffire à tous. Maintenant, très brièvement, avant de lire les paroles d'introduction, venons-en à l'état d'urgence que Paul a déjà effleuré au chapitre 10 et maintenant encore un peu au chapitre 11, à partir du verset 17. Or, je prends les dispositions suivantes parce que je ne trouve pas louable que vos réunions, loin de vous apporter une bénédiction, vous nuisent. Imaginez-vous, représentez-vous cela, que déjà dans le christianisme primitif, il y avait tout simplement des choses qui n'avaient pas leur place dans l'Église. Verset 18. Tout d'abord, en effet, j'entends dire que lorsque vous vous réunissez en assemblée d'Église, il y a des divisions parmi vous. Et en partie, je le crois vraiment. Il faut bien qu'il y ait des parties parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Mais nous avons certainement dépassé ce stade. Maintenant, nous voulons faire nos preuves, être approuvés. Il est ensuite écrit au verset 20, si donc vous vous réunissez en un seul lieu, il n'est pas possible ainsi de tenir le repas du Seigneur d'une manière convenable. Car chacun en mangeant prend de l'avance sur son propre repas, de sorte que l'un reste affamé tandis que l'autre est ivre. Qu'ont-ils fait? Celui qui avait beaucoup prenait beaucoup et cela devait toujours être appelé souper du Seigneur. Et chacun y apportait ainsi les poches pleines. Et celui qui avait peu en apportait peu, l'un s'élargissait de plus en plus. L'autre était dans le besoin, ou les deux avaient la misère, l'une d'une manière, l'autre d'une autre. Et ici, Paul écrit, alors que l'un reste affamé, les autres sont déjà ivres. Qu'ont-ils fait? Ils en ont fait un repas où chacun pouvait encore apporter ce qu'il avait. J'espère seulement qu'il n'y avait pas de saucisse de porc. Mais comme il en va de même ici, c'est la parole de Dieu. Car chacun prend son propre repas en mangeant de sorte que l'un reste affamé, tandis que l'autre est ivre. Et maintenant, il fait à nouveau descendre le marteau et écrit. Verset 22. N'avez-vous donc pas de maison pour y manger et y boire? Ou bien, méprisez-vous l'Église de Dieu et cherchez-vous à faire honte à ceux qui n'ont pas de moyens? Que dois-je dire à ce sujet? Dois-je vous louer? Certainement pas sur ce point. Remarquons-nous de quoi il s'agit ici maintenant. Un souper, un repas est un repas. Et celui qui veut apporter quelque chose, qu'il mange quand c'est l'heure du repas. Mais lorsque nous nous réunissons pour le souper du Seigneur dans l'église, alors chacun n'apporte pas ce qu'il veut. Mais comme nous l'avons lu, celui qui le mange, nous nous partageons un seul pain. tous en ce seul pain. Et ce pain-là unique est rompu et tous ont part en, à ce pain unique. Et il y en a de même avec la coupe qui est ensuite passée de l'un à l'autre. Quelqu'un m'a demandé si deux coupes n'étaient pas de trop. Oh non, ne vous faites pas de soucis. Une coupe est une coupe et il n'y en a pas deux. Chacun n'en prend qu'une et puis on se la passe. Maintenant, nous arrivons à la partie à laquelle nous devons aussi prêter une attention particulière. Car, pour ma part, maintenant le verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, verset 24, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Cela aussi est très important, Calvin et Zwingli et qu'ils soient, et Luther et Schwenkfeld se sont disputés. Est-ce le corps ou cela signifie-t-il le corps? Pourquoi ces hommes n'ont-ils pas lu la phrase en entier? Ceci est mon corps pour vous. Fini. C'est tout ce dont nous avons besoin. Ceci est mon corps pour vous. Il se tenait en effet encore là, dans la grandeur de son corps, tandis que le pain dans ses mains était dans ses mains et le bénissant et le rompant. Le sang coulait encore dans ses veines. C'était le vin dans la coupe et non son sang. Mais c'est déjà une indication qu'il donnera son corps et que son sang coulera pour le pardon de beaucoup. D'une multitude. Mais comme nous l'avons dit plus tôt, nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui transforme ici le vin en sang. Lorsque notre Seigneur a changé l'eau en vin, c'était aussi le cas. C'était vraiment ainsi. Mais je suis convaincu que le prêtre qui boit tout pour qui boit la coupe pour tous, qui n'a jamais eu d'autre goût dans la bouche que le goût du vin. Après et avant. Et si vous ne me croyez pas, je me mets à votre disposition et je vais avec les gens et je prends une gorgée avant le Sanctus, Sanctus, Sanctus et la deuxième gorgée après le Sanctus, Sanctus, Sanctus. Et qu'ils me disent ensuite qu'on boira à deux, si vous voulez, je n'ai pas de problème, le prêtre et moi, pour que la chose soit aussi confirmée, que rien n'a été transformé. Pas avec nous. Le temps est passé. Nous avons reçu la clarté divine. Êtes-vous reconnaissant pour cela? Oh, comme nous devrions être reconnaissants que Dieu nous ait fait grâce, qu'il nous ait ouvert les yeux et les cœurs et qu'il les ait ouverts. Faites ceci en mémoire de moi. Le verset 25 maintenant. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Remarquons-nous de quoi il s'agit. La mort du Seigneur est annoncée jusqu'à ce qu'il revienne. Pour que tous sachent aussi que le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples après le repas. Après le repas, après le souper, je voudrais le lire. Et je vous demande spécialement à vous qui êtes nouveaux d'ouvrir la Bible et de lire avec moi ou d'écouter attentivement. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, le chapitre 13, dès le verset 4. Écoutez bien. Pendant le repas, il se leva. Donc, le repas, pendant le repas, Il se leva, avez-vous bien entendu? Il se leva de sa place, ôta ses vêtements de dessus, prit un tablier de lin et le noua autour de lui. Très important. On m'a souvent demandé si le lavage des pieds devait avoir lieu avant ou après le repas. Ici, il a eu lieu après le repas. Il se leva de sa place, et ce, pendant le repas. Je lis à nouveau. Pendant le repas, il se leva de sa place, ôta ses vêtements de dessus, prit un tablier de lin et le noua autour de lui. Après cela, il versa de l'eau dans le bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le tablier de lin qu'il avait noué autour de lui. Il vint donc aussi vers Simon, Pierre. Celui-ci lui dit, « Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit en disant, « Ce que je fais là, tu ne le comprends pas encore, mais tu le comprendras tout à l'heure. » Pierre lui répondit, « Maintenant et jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » C'est grave. Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Alors Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, alors non seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui répondit, « Celui qui est baigné n'a pas besoin qu'on lui lave autre chose que les pieds, mais il est pur. » Mais il est pur de tout son corps. Avons-nous tous bien compris cela? Rien de plus. La tête n'a pas besoin d'être lavée. Il y en a suffisamment. Et la plupart des gens n'utilisent ni savon ni eau pour cela. Hein? Mais ici, il s'agit d'une chose très sérieuse. Il veut laver la tête des gens. Jésus... Faire un lavage de cerveau, donc, c'est ce qu'il veut dire. Jésus, notre Seigneur, l'a introduit et nous a ordonné de le faire. Je peux continuer à lire le même chapitre de Jean 13 à partir du verset 12. Maintenant, écoutez encore mieux que vous venez de le faire. Après leur avoir lavé les pieds, remis ses vêtements de dessus et repris sa place à table, il leur dit... Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous vous adressez à moi en disant « Maître et Seigneur » et vous avez raison de m'appeler ainsi, car je le suis vraiment. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous êtes tenus de vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un modèle afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, béni êtes-vous si vous le pratiquez. Maintenant, nous le savons. Et maintenant, nous allons aussi agir en conséquence. Le pratiquer sans nous demander pourquoi. On pourrait demander pourquoi le baptême. Ce n'est que de l'eau. Si on veut demander, on peut poser beaucoup de questions. Nous ne sommes pas là pour demander. Nous sommes là pour le faire. Je l'ai déjà dit ici au moins 2 ou 3 fois. Je suis reconnaissant à Dieu d'avoir du vivant de frère Branham avec lui dans l'église, tenu et participé au souper, au repas et aussi au lavage des pieds à Jeffersonville, de son vivant. Si je n'avais pas vu cela mis en pratique de cette manière dans l'église où frère Branham servait, j'aurais probablement eu du mal à le mettre en pratique moi-même. Car les prédicateurs disent aussi aujourd'hui, on se cire les chaussures et c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil, non. Quand le Seigneur dit qu'il n'est pas nécessaire de se laver la tête, nous le comprenons. Et quand il dit, je vous ai donné un modèle afin que vous fassiez comme je vous ai fait, c'est ce que nous voulons faire maintenant. En premier lieu, le repas du Seigneur et après le repas, le lavage des pieds.